Laudetur Jesus Christus.
Les jeunes à Confesse aujourd'hui à Rome, les participants au Jubilé des jeunes se préparent à la grande veillée. Demain soir en compagnie de Léon XIV qui participe là à son premier grand événement en tant que pape, nous reviendrons sur l'importance d'un tel moment juste après les titres. Ce jubilé, c'est l'occasion pour les jeunes du monde entier de se connaître et de manifester aussi leur solidarité avec leurs frères venant de pays en guerre. C'est le cas d'un Suisse qui a assisté hier à sa première liturgie byzantine en compagnie d'Ukrainiens. Au Tchad, les juges changent les chefs d'inculpation de l'ancien Premier ministre en pleine audition. Les avocats de Succès Masra dénoncent un hold-up judiciaire. Explication avec notre correspondant à N'Djamena. Et puis en Angola, nous verrons quel est le profil des jeunes manifestants qui ont protesté au prix de leur vie parfois contre la hausse des prix des carburants cette semaine.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Les jeunes pèlerins participant au Jubilé des jeunes parcourent les rues de Rome, les champs fusent un peu partout. Mais le centre de leur activité aujourd'hui, c'est le site du Cirque Maxime, au cœur de la Rome antique, là où ont été dressées des tentes pour les confessions toute la journée. Les centaines de milliers de jeunes vont s'y presser avant d'aller demain sur le site de Tor Vergata, en périphérie de Rome, où ils retrouveront le pape pour une veillée de prière. Pour la première fois à cette occasion, la jeunesse catholique rencontrera en grand nombre son nouveau pape. Plus d'un demi-million de jeunes sont attendus. Ils passeront une nuit à la Belle Étoile avant la grand-messe du lendemain dans ce lieu à la mémoire historique. C'est sur ce campus de Tor Vergata, en effet, qu'il y a 25 ans, Jean-Paul II exhortait les jeunes à porter l'évangile dans le nouveau millénaire. Nous étions alors au JMJ de Rome, en plein jubilé de l'an 2000. Monseigneur Renato Boccardo en était l'organisateur. Aujourd'hui, archevêque de Spoleto-Norcia en Italie, il nous raconte l'importance de tel moment privilégié pour le début d'un pontificat.
Jean-Paul II, sur la prairie de Tor Vergata, justement, à l'an 2000, il a cité un proverbe polonais qui dit « Si tu vis avec les jeunes, tu continueras d'être jeune, tu demeureras jeune ». Eh bien, je pense qu'on peut le dire pour les papes qui l'ont succédé. Léon XIV va commencer, pour ainsi dire, son pontificat avec cette grande rencontre avec les jeunes. Eh bien, nous souhaitons que ce temps de partage et de prière qu'il va vivre avec la jeunesse du monde entier puisse lui garder un cœur jeune, c'est-à-dire puisse le soutenir dans son ministère de pasteur de l'Église universelle et puisse lui suggérer les gestes et les paroles qui arrivent à toucher les cœurs des hommes et des femmes de notre temps. Là, on a des jeunes qui viennent de partout, ils sont très différents entre eux, chacun est porteur d'une richesse différente et pourtant ils s'entendent, ils se mêlent et ils se connaissent et ils se racontent. Donc, c'est un appel à l'humanité, je dirais, à vraiment ouvrir les portes, savoir s'accueillir réciproquement, découvrir la richesse dont chacun est porteur.
Monseigneur Renato Boccardo, il était joint au téléphone par Delphine Allaire. Les jeunes viennent du monde entier et notamment d'Ukraine. La délégation ukrainienne s'est ainsi retrouvée hier soir en l'église Sainte-Sophie pour une liturgie byzantine. Un temps de prière au milieu de leur programme auquel se sont associés de nombreux autres jeunes en signe de solidarité avec ces pèlerins venus d'un pays en guerre. C'est le cas d'Armand, un jeune Suisse de 23 ans. Il est arrivé à Rome à pied après 10 jours de marche. À Sainte-Sophie, hier donc, Armand, qui a pour la première fois assisté à une liturgie byzantine, a voulu apporter son soutien aux Ukrainiens et les rencontrer.
Nous avons pu vivre une messe dans le rite que pratiquent les Ukrainiens. J'étais très touché par cette liturgie, la place accordée au chant. C'était très beau, ça a vraiment tout touché mon cœur. Et j'aimerais dire aux jeunes Ukrainiens catholiques, mais que voilà, il est beau d'espérer, enfin que je leur souhaite de pouvoir profiter de ce jubilé pour faire le plein d'espérance, parce qu'on a l'envie de contribuer à un monde meilleur, un monde avec plus de justice, moins d'armes, vraiment qui mettent la paix au centre. Et pour nous catholiques, pour nous chrétiens, je pense qu'il nous reste la prière, prier encore et toujours pour que le bon Dieu vienne intercéder, agir pour les Ukrainiens.
Des propos recueillis par Svetlana Idurovitch de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. En Ukraine, aujourd'hui, une journée de deuil a été décrétée en mémoire aux 31 civils qui ont péri hier matin dans un bombardement russe à Kiev. Parmi ces victimes, 5 enfants. C'est l'une des attaques russes les plus meurtrières depuis le début de la guerre en 2022. 159 personnes ont par ailleurs été blessées. Le mois de juillet a été particulièrement éprouvant pour les Ukrainiens, la Russie n'ayant jamais autant lancé d'attaques depuis le début du conflit. Selon le décompte mené par l'agence France-Presse, les raids de drones notamment ne font qu'augmenter depuis 3 mois, preuve d'une intensification de la pression russe. Autre territoire sous les bombes quotidiennes, la bande de Gaza. Ce matin, 11 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes, dont 2 qui attendaient de recevoir de la nourriture. Aujourd'hui, l'émissaire américain Steve Witkoff et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, sont en train d'inspecter les sites de distribution d'aide près desquels 1373 Palestiniens ont été abattus donc par l'armée israélienne depuis fin mai, selon les chiffres de l'ONU. Les deux diplomates doivent mettre en place un plan pour livrer davantage de nourriture aux Palestiniens du territoire, alors que l'ONU et des ONG dénoncent une situation toujours dramatique, plus de 2 millions de personnes souffrant de la faim. Frappe israélienne également, cette fois au Liban. Hier soir, le sud et l'est du pays ont été visés. 4 personnes ont été tuées. Le gouvernement israélien affirme avoir visé notamment un important site de production de missiles du Hezbollah. L'affaire Succès Masra, du nom du président du parti Les Transformateurs et ancien premier ministre du Tchad. Eh bien, les juges de la chambre d'accusation de N'Djamena ont confirmé les ordonnances des juges d'instruction, mais ils ont renvoyé l'opposant devant la chambre criminelle en requalifiant les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats qualifient cette décision de hold-up juridico-judiciaire. Le point à N'Djamena avec Abba André Dieudonné.
Détenu le 16 mai dernier pour incitation à la révolte et à la haine dans des violences intercommunautaires à Mandakao dans le sud du Tchad le 14 mai 2025 ayant occasionné plus de 40 morts, l'opposant et leader du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a vu ses chefs d'accusation changer. Lors d'une audience tenue ce mercredi 30 juillet, les juges de la chambre d'accusation ont brusquement requalifié les charges, renvoyant son dossier devant la chambre criminelle pour des faits bien plus lourds. Diffusion de messages de nature raciste et xénophobe, assassinat et association de malfaiteurs, une situation qui remet en cause l'indépendance des juges dans ce dossier, estiment ses avocats arguants qu'il ne s'agit nullement d'une procédure de justice, mais d'un règlement de compte politique camouflé sous un vernis judiciaire. Des arguments battus en brèche par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Gachem Chérif, qualifiant ses propos d'outrancière et irresponsable. Pour lui, la justice tchadienne est totalement indépendante de toute ingérence politique. Abba André Dieudonné N'Djamena pour Radio Vatican.
Première réunion depuis la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa de représentants rwandais et congolais. La rencontre s'est tenue hier à Washington en présence d'observateurs des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine. L'objectif est de suivre la mise en œuvre de l'accord de juin. En Angola, la conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé appelle au calme et invite au dialogue entre les citoyens et les institutions après les émeutes qui ont causé officiellement la mort de 22 personnes. C'est notamment la hausse des prix des carburants qui a mis le feu aux poudres. Le père Luigi Nofratin, prêtre italien de la Société des Missions Africaines en Angola depuis 1999, revient sur le profil des manifestants et les difficultés de la jeunesse dans le pays.
Non è solo contro il caro vita.
Ces manifestations ne sont pas seulement contre la vie chère, mais contre le manque de perspective. Selon une étude de l'université catholique que je cite ici à grands traits, 50% des jeunes sont au chômage. Parmi les 50% restants, seuls 25% sont intégrés dans le monde du travail et de l'État. Les 25% qui restent vivent, disons, d'expédients, d'une économie souterraine, d'une économie parallèle. Et quand on passe dans les quartiers populaires, on voit beaucoup de jeunes qui ne font rien, qui traînent ou qui vendent des bricoles, des brosses à dents, du papier hygiénique, des choses comme ça pour joindre les deux bouts.
Spazzolini da denti, carte igienica, cose così, pertanto per sbarcare il lunario.
Des propos recueillis par notre consoeur de la rédaction italienne, Giada Aquilino. L'ancien président sud-coréen Yoon Suk-yeol, destitué après avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre dernier, allongé en caleçon sur le sol de sa cellule. C'est le procédé insolite qu'il a trouvé pour refuser de comparaître devant les juges qui ont refusé d'utiliser la force pour l'amener au palais de justice aujourd'hui. « Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera lundi matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, toutes et à tous, un excellent week-end.